Vous écoutez France Culture.
Question d'éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Cantu-Sperber. Aider l'Afrique ou l'exploiter? Comment comprendre la présence chinoise dans le continent africain? Avec Jean-Raphaël Chaponnière et Jean-Jacques Gabas. Assistons-nous depuis 10 ans à une invasion chinoise de l'Afrique. Des millions d'hectares de terres achetées, des régions entières exploitées, les ressources mises en coupe réglée, des populations dominées. Ce tableau calamiteux que nos éditeurs se rassurent n'a rien à voir avec la réalité. Pourtant, nul ne peut nier que la Chine est présente en Afrique, mais bien différemment de ces images d'Épinal. Dans quel but? Pour promouvoir quelles valeurs? Assiste-t-on véritablement à un modèle de développement radicalement différent de ce qu'ont connu les autres pays? Une sorte d'entraînement d'un pays du Sud par un autre pays du Sud. Merci Jean-Raphaël Chaponnière et Jean-Jacques Gabas d'avoir accepté de participer à cette émission. Vous venez de publier un livre paru il y a un peu plus d'un an, « Le temps de la Chine en Afrique ». Enjeux et réalité au sud du Sahara, chez Gamdev Kartala, et qui fait le point sur cet ensemble de questions. En quoi la présence chinoise en Afrique consiste-t-elle? D'abord, est-ce qu'il y a une zone d'intervention privilégiée en Afrique, ou bien d'ailleurs, est-ce que c'est réparti sur toute l'Afrique?
Alors, en termes de commerce, non, parce qu'en termes de commerce, bon, elle est partout sur les importations. Par contre, sur les importations, c'est pays pétroliers et pays exportateurs minerais.
C'est vrai qu'il y a quand même une grande différence entre sa présence au nord de l'Afrique et puis sa présence en Afrique de l'Ouest, qui est quand même plus modeste, et puis sa présence en Afrique du Sud, qui capte quand même une grosse partie de cette présence.
Le nord de l'Afrique n'intéresse pas le Maghreb. Le Maghreb reste un petit peu en dehors.
Bien sûr.
Alors, par exemple, Libye, Égypte. En termes de commerce, qu'est-ce que ça signifie? Bon, vous insistez sur la force commerciale de la Chine, bien sûr, mais quelles ont été les conséquences, par exemple, sur les marchés africains et sur la production africaine?
Effectivement, on peut dire que la Chine inonde les marchés africains et qu'elle désindustrialise l'Afrique. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que l'Afrique n'était pas tellement industrielle et que les plans d'ajustement des années 80 ont sans doute plus fait de dégâts que la concurrence chinoise. La concurrence chinoise ajoute une couche, mais c'est pas elle qui a produit.
Elle ajoute une couche là où l'industrialisation pourrait enfin se faire. Ça veut dire que que la Chine inonde les marchés africains de produits fabriqués en Chine, évidemment, à des prix concurrentiels. Ne laisse pas beaucoup de chance aux Africains pour développer des industries.
C'est pas spécifique, on le voit ici, c'est pas spécifique à l'Afrique. C'est vrai partout, c'est vrai en Asie, c'est vrai en Amérique latine, et c'est vrai en Afrique. Le problème en Afrique, c'est que finalement, les Chinois, face à ça, ont annoncé des projets, c'était donc en 2006, de construction de zones économiques spéciales, en disant qu'à travers ça, ils industrialiseraient l'Afrique. Pour le moment, c'est plutôt, enfin, c'est pas une réussite, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là aussi, il y a un autre, dans le côté positif, il y a un autre bruit qui court, c'est de dire que sur le plan industriel et le point de vue d'industrie légère, l'Afrique serait la relève de la Chine. Ce qui est là aussi, très, très exagéré.
Mais comment cela se pourrait-il de se faire? Est-ce qu'ils aident la construction d'industrie?
Il y a quelques investissements. Il y a eu des choses sur la chaussure.
Donc la Chine se comporte comme une puissance coloniale traditionnelle, c'est-à-dire spécialisant les pays dans des productions de matières brutes et entravant leur industrialisation et leur capacité à devenir des concurrents.
Non, moi je ne serais pas d'accord pour dire ça de façon aussi brutale, parce que la situation est quand même plus nuancée et la situation évolue. Et elle évolue beaucoup, notamment dans le secteur agroalimentaire. Vous avez effectivement des interventions de la Chine dans le secteur du maraîchage, dans le secteur de la riziculture, etc., etc., donc du vivrier. Mais il y a aussi un souci, comme on dit en économie, de faire des remontées de chaînes de valeur. Et donc, si c'est relativement nouveau, c'est donc existant. dans les réflexions au sein du ministère du Commerce, du MOFCOM à Pékin, mais aussi au sein des universitaires qui sont de plus en plus présents pour faire passer les idées sur cette idée justement d'industrialisation. Mais ce n'est pas l'industrialisation au sens grosse industrialisation, c'est de la petite transformation locale en zone rurale. Et ça, c'est un vrai souci. C'est un vrai souci.
Bien, alors ça, c'est pour les exportations de la Chine vers l'Afrique, concernant en particulier les produits fabriqués, les conséquences que ça. Et maintenant, pour les importations. Donc, quels sont les produits que la Chine fait venir d'Afrique?
Fait l'Europe, comme ce que fait les États-Unis.
C'est-à-dire les matières premières, pétrole, minerais.
Plus le bois.
Voilà. Alors, on parle beaucoup aussi des denrées alimentaires. Qu'en est-il?
C'est une erreur. C'est une idée reçue qui n'a aucun sens. Si vous regardez l'ensemble des projets agricoles qui sont mis en œuvre, notamment suite aux fameux FOCAC, les forums de coopération sino-africaine depuis 2000, et notamment ceux depuis 2006, où il y a des annonces et des réalités de mise en œuvre de ce qu'on appelle des centres de démonstration agricole en Afrique, il y en a maintenant une vingtaine, tous ces centres de démonstration n'ont qu'un objectif, c'est d'alimenter les marchés intérieurs, voire régionaux africains. Il n'y a aucun produit vivrier qui est exporté vers la Chine.
Donc ça, c'est un mythe. Il faut insister sur ce point parce que ce n'est pas du tout l'image commune.
Non, mais c'est
très bien de la rectifier.
Deuxième point, peut-être toujours sur. Enfin, si vous regardez, donc ça, on parle de projet. Si on regarde les échanges entre la Chine et l'Afrique, donc les échanges agricoles, ça représente 2-3% de ces échanges.
Oui, très faible.
Et c'est la Chine qui est excédentaire. C'est la Chine qui exporte plus de produits agricoles vers l'Afrique que l'inverse. Et c'est des produits de plus en plus diversifiés, sinon elle va importer effectivement du cacao, du café, des choses comme ça. Mais donc on a les deux phénomènes, et on voit pas, autant on comprend que la Chine puisse investir pour sa sécurité alimentaire à ses marches, en Asie du Sud-Est, autant investir en Afrique pour sa sécurité alimentaire, ça donne très incrédule.
Matières premières, pétrole, minerais, charbon, platine, évidemment. Mais ça, ce n'est pas très propice au développement d'une industrie africaine non plus. Là, j'avais relevé un chiffre qui me paraissait assez saisissant. Le déficit commercial de l'Afrique avec la Chine dans le domaine du textile est passé de 200 millions à 1,35 milliard. Ça veut dire que l'échange est quand même très défavorable à l'Afrique.
Ah ben c'est clair, c'est qu'il y a de l'exportation de coton, par exemple, brut, qui se dirige vers la Chine. Et puis en retour, la Chine vend effectivement énormément de produits textiles transformés.
Et les marchés, la production textile, en particulier au Sénégal et dans tous les pays voisins, est évidemment étranglée.
Mais là, vous regardez sur le bilatéral, ce qui est beaucoup plus grave, c'est non pas sur le bilatéral, mais sur les marchés tiers. L'Afrique avait bénéficié dans les années 2000 de l'AGOA. Donc l'accord avec les États-Unis qui exemptait les exportations africaines, en particulier d'amibans. Cet accord avait été fait avant l'entrée de la Chine à l'OMC. Une fois que la Chine est rentrée à l'OMC, tous les obstacles qu'elle avait à l'exportation textile sont tombés. Mmh. Et bien sûr, les exportations africaines, surtout Afrique du Sud, Afrique... Afrique de l'Est ont chuté.
Oui, alors ces deux vieux pays industrialisés ont du mal à s'en remettre. On peut penser que pour un pays qui est en voie d'industrialisation comme l'Afrique, le choc est particulièrement rude. Alors parlons des deux autres domaines qui sont des domaines d'intervention majeurs des Chinois en Afrique, de l'économie chinoise en Afrique en tout cas, les infrastructures d'une part, et puis les prêts, et les prêts conventionnels. Les infrastructures, on parle des routes, des immeubles, des bâtiments, même du siège d'organisation africaine qui construit. Donc tout ça, c'est un investissement massif. À quoi ça correspond de la part des Chinois?
Ce que vous dites est juste. C'est une réalité de voir que la plupart des infrastructures urbaines en Afrique sont mises en œuvre et financées par le gouvernement chinois et par des entreprises chinoises. Alors là, c'est là où ma compétence s'arrête parce que les contrats sont effectivement difficiles à avoir et donc les conditions vraiment financières sont difficiles à connaître. Mais il n'empêche quand même que on peut dire aussi que ça correspond à un besoin. Les besoins qui sont le troisième pont à Bamako, la même chose à Abidjan, ce sont des demandes des gouvernements. Il faut quand même voir que tout cet investissement dans le secteur des infrastructures a été quand même fortement en diminution pendant plusieurs décennies en Afrique. Donc ils arrivent et ils répondent à un besoin.
Oui. Sans et tout... les Européens, les partenaires traditionnels de l'Afrique, les Européens et les Occidentaux, que font-ils?
Ben en fait, pour revenir à ça, effectivement, ouais. Si on regarde la part des infrastructures dans l'aide européenne ou l'aide du CAD, en fait, elle a chuté considérablement dans les 15 dernières années. Et si on reprend la question, ce que vous disiez tout à l'heure sur le modèle de développement, bon, les Chinois font en Afrique ce qu'ils font chez eux. C'est-à-dire ce qu'ils disent, pas besoin de faire des réformes pour transformer l'agriculture, il faut construire une route pour devenir riche. Et donc, ils répondent effectivement aux besoins d'infrastructures, et les infrastructures sont l'étranglement principal en Afrique. Donc, maintenant, alors le deuxième point, alors qui est plutôt lui plus mitigé, c'est la qualité des infrastructures qui sont faites. Tout dépend du surveillance qui est fait. Quand c'est des contrats, lorsque la Chine réalise des contrats pour la Banque mondiale où il y a une surveillance étroite, bon, les routes sont c'est bien qu'ailleurs. Si la surveillance n'est pas forte et si c'est des contrats en direct, les Chinois sont comme n'importe qui, ils savent.
Et qui travaille sur ces chantiers? Des ouvriers africains ou des ouvriers chinois?
Non, ce ne sont pas des ouvriers chinois, sauf si ce sont des techniciens ou des ingénieurs. Mais la plupart des mains-d'œuvre, ouvriers qualifiés, ouvriers spécialisés, sont des Africains qui sont employés localement. Donc le fait de penser que, encore une fois, ce ne sont que une masse de Chinois qui arrivent sur les chantiers en zone urbaine ou en zone rurale pour mettre en œuvre une infrastructure, non, ce n'est pas ça la réalité.
Tout dépend des réglementations qu'ont les pays. Les travailleurs sur les chantiers, les grands chantiers chinois, ne sont pas des sans-papiers. Ils viennent avec un visa. Dans le cas de l'Algérie, où il y a eu effectivement 20 000 Chinois qui ont travaillé dans les travaux d'infrastructure, et ça a été un grand retentissement en Algérie, ils avaient tous un permis de travail.
Mmh. Donc ça correspondait à une demande.
La Chine, effectivement, préférerait envoyer ses travailleurs, c'est évident, mais on n'en est pas toujours autorisé.
Absolument.
Mais espérons aussi qu'il y ait un véritable transfert de technologie. Donc, pas de millions d'hectares qui appartiennent à la Chine en Afrique, pas de production africaine massivement vendue sur les marchés chinois, pas de prisonniers chinois qui travaillent dans les champs africains. Ça aussi, c'est une légende qui circule. Il n'y a qu'un million de Chinois installés en Afrique. Parlons à présent des prêts, de la manière dont la Chine se positionne comme un des grands prêteurs pour des économies et des États africains qui sont en général en très grande difficulté financière. De quelle manière les choses se passent-elles?
Alors, premièrement, ils ne sont pas tous ils ont tous eu, enfin tous les pays ont profité donc du programme de désendettement. Hein. Mmh. Et quand on regarde donc les pays où là aussi avec beaucoup d'incertitudes, mais les pays où la Chine intervient le plus en termes de crédit, ce sont rarement les pays qui ont le plus profité donc des programmes de désendettement. Il y a deux cas particuliers. Il y a ce qui s'est passé en RDC, où il y a eu des grands projets, donc infrastructure contre prêt, mais là le FMI est intervenu et donc ça s'est pas fait. Et le seul pays où effectivement on voit une montée de l'endettement liée à des prêts chinois, je crois que c'est l'Éthiopie et la Tanzanie.
Mais alors, et puis le Zimbabwe aussi, bien sûr.
Quelle différence, quelle divergence même de politique avec les prêteurs occidentaux? Parce qu'en général, la FMI en particulier et les autres instances chargées de cela prêtent de l'argent avec des conditions.
Ben voilà, c'est ça.
D'abord en s'orientant essentiellement vers les acteurs publics, que le risque l'on sait de détournement et avec des conditions extrêmement strictes. Donc, ce qui est vu dans certains cas comme une ingérence dans le gouvernement et la gouvernance et l'organisation interne des États. Ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit avec les prêts que proposent les Chinois.
Absolument, puisqu'il n'y a pas de conditionnalité strictes, sauf des conditionnalités d'ordre politique, mais ça c'est déjà évacué en amont lorsque la Chine est déjà présente, c'est-à-dire non reconnaissance de Taïwan, ça c'est une... Mais la partie... véritablement lorsque le prêt est mis en œuvre, il n'y a pas de conditionnalité précise sur la même mesure à prendre en matière de politique économique.
Donc ce n'est pas du tout utilisé comme un moyen vertueux qui amène en quelque sorte des États à se comporter de manière de plus en plus vertueuse.
C'est peut-être pas utilisé de cette manière-là, mais il est clair que ça correspond encore une fois à un besoin. Donc avec peut-être aussi l'idée en amont de se dire... si jamais l'État n'est pas capable de rembourser, il y aura certainement de l'annulation aussi.
Alors, et puis les Chinois prennent beaucoup à des acteurs privés aussi, pas simplement.
Oui, mais là, ça, donc là, on est sur les prêts privés, mais
oui,
pas.
Donc,
pas
ils sont beaucoup.
Mais juste sur le point, donc, pour revenir, on disait tout à l'heure sur les prêts sur les infrastructures, parce que ce qui va caractériser les prêts chinois ou la circulation de l'argent chinois, c'est qu'en fait, l'argent va aller en Chine, va aller de l'État chinois à l'acteur chinois. Ça peut éviter sans doute des dérives et de la corruption. Ce que disent aussi les Chinois pour défendre les projets d'infrastructure, les projets donc pétrole contre infrastructure, alors qu'il n'y en a quand même pas énormément,
non,
c'est de dire que, en fait, ça assure le fait que l'argent du pétrole et des mines va aux infrastructures, ce qui n'est pas toujours le cas. Et pour revenir à un point sur l'aide liée, c'est un reproche qui est souvent fait à la Chine. Il y a d'autres pays qui ont lié leur aide, mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi l'aide ne délie pas Chine. Parce qu'en fait, elle est moins 10 ans, elle est moins chère. La critique qu'on adressait à l'aide liée à la France, dans le cas avant, c'était le fait qu'à travers l'aide liée, elle exportait des choses qu'on ne peut pas exporter dans un contexte de concurrence.
Oui, mais est-ce que cela ne risque pas, à long terme, de poser un problème? Là, j'avais noté un certain nombre de choses après la lecture d'un article de Jeune Afrique qui remarquait que la Chine avait prêté 6 milliards de dollars à Kinshasa en 2007. Alors que la Banque mondiale était en train de finaliser un allègement de 80% de la dette extérieure de ce pays, quand même extrêmement fragile. Une dette qui se montait à 12 milliards de dollars. Donc la Chine joue clairement la carte du réendettement, alors que le FMI s'efforce au contraire de désendetter les pays, parce que c'est une charge considérable quand même, les services de la dette pour eux.
Mais bon, justement, ça, c'est ça qui
a été... Là, il y a une contradiction.
Mais ça a été raté.
Ça a été raté, ça s'est pas fait. Bon, vous me rassurez tout à fait. Et puis, dernier point sur les prêts. Est-ce que quand les Chinois prêtent, dans des conditions semblables à celles du marché, de l'argent pour construire une grosse infrastructure, est-ce que le prestataire est-ce qu'il y a une sorte de non-articulation entre la nationalité du prestataire choisi et...
Non, c'est de l'allié.
C'est de l'allié, donc il sera chinois.
Il sera chinois, nécessairement. Bon, ce qui n'est pas le cas avec les prêts occidentaux, où il y a quand même une exigence de délimitement.
Oui.
Donc ça, c'est
bien de remarquer aussi. Au dernier sommet de Busan sur l'efficacité de l'aide, les Chinois ont refusé d'entrer dans le délimitement de l'aide.
Alors, pourquoi la Chine en Afrique? Qu'est-ce qu'elle cherche? Bon. Puisque ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas la sécurité alimentaire. Bien sûr, les matières premières, ça a été dit. Est-ce qu'il y a une affinité d'ordre politique, idéologique, puisqu'à l'origine, le rapprochement entre la Chine et l'Afrique était basé sur le groupe des non-alignés.
On met le projecteur sur le commerce, mais en fait, dans les années, quand vous regardez les premières interventions de la Chine en Afrique dans les années 60, la Chine a reconnu l'Égypte. Dans l'année qui a suivi, elle a mis une agence commerciale. Enfin, le commerce et la diplomatie, on met aujourd'hui plus l'accent, disons, dans les années 50, 60, c'était idéologique et pas commercial, et maintenant c'est l'inverse. Ça allait de pair. Il faut bien voir qu'à l'époque, pour l'Afrique était plus riche que la Chine. Donc, je pense que c'est plutôt une question projecteur qu'on a. Quoi.
Oui, et puis quand même pour répondre à votre question, la Chine, elle est comme tout État. Elle souhaite s'imposer sur la scène internationale. Elle souhaite avoir un certain pouvoir qui soit parfaitement bien reconnu. Donc sa puissance, elle va se la construire avec sa présence, avec son commerce, avec toute sa politique d'influence. Donc, en ce sens-là, la Chine n'échappe pas à la stratégie que peut avoir les États-Unis, que peut avoir l'Europe, etc. Par contre, il y a peut-être aussi quelque chose d'important derrière, mais c'est peut-être une hypothèse peut-être. C'est que il y a quand même 52 États et ils comptent quand même aux Nations Unies. Et il y a un point important, c'est très certainement de bloquer d'une manière ou d'une autre un siège du Japon au Conseil permanent de sécurité. Et là, c'est très certainement lié à une géopolitique internationale.
Et qu'est-ce qui reste de la présence du Japon en Afrique? Parce qu'on a dit beaucoup de choses aussi il y a quelques décennies à ce sujet.
C'était l'irruption d'un nouveau concurrent commercial. Hein.
Mais là, il ne reste plus grand-chose de la présence du Japon.
Il y a quand même des présences avec notamment les fameuses ticades.
De façon régulière. Il y a peut-être juste un dernier point sur les modèles de développement. Enfin, Si on,
oui,
on regarde
de cela, c'est très important. Sur, parce que c'est une des cartes de oui. Enfin, c'est une des interprétations de cette relation qui est un pays qui a réussi un certain type de développement, qui se porte comme, qui se présente comme exemple pour un autre.
Si on regarde de l'extérieur, hein, et si on est un martien et on regarde ce qui se passe, on voit des vieux pays qui ont une expérience de développement qui date du 19e siècle, qui viennent conseiller des pays à se développer. Et là, on a un pays qui est en cours de développement. On peut penser qu'a priori, ces conseils sont plus pertinents. Et je reviens à les infrastructures.
Donc, de sud à sud, en quelque sorte.
Je pense que la Chine est certes un pays du sud, mais c'est un pays du sud qui est une grande puissance.
Ouais. Mais je pense aussi qu'en matière de cette idée de transférer un modèle de développement, la Chine ne l'a pas comme ça de façon assez brutale. Elle pense qu'il faut effectivement construire le décor du développement, les infrastructures, insister beaucoup sur l'offre, hein, et relativement peu sur les conditions de marché. Mais en fait, la Chine en Afrique, elle est aussi en apprentissage. Enfin, ce qui me paraît important, c'est que l'idée de transférer un modèle ou une trajectoire de développement n'est pas, au moins chez la plupart des acteurs avec lesquels on discute, n'est pas figée. Elle est en pleine évolution. Elle se rend compte que beaucoup de ses opérations, ça ne marche pas. Et elle se rend compte aussi que, compte tenu des grands enjeux auxquels est confrontée l'Afrique, notamment les questions d'emploi, les questions de transformation structurelle, etc., elle va adapter son modèle. C'est absolument clair.
Alors, la présence chinoise en Afrique est passée, dans les années 50, d'une aide en grande partie inspirée par l'idéologie, ensuite une aide à la modernisation.
Oui.
Une présence ensuite de plus en plus courante avec des enjeux économiques évidents. J'imagine que tout cela ne se fait pas sans protestation. D'abord, des groupes occidentaux installés en Afrique, parce que beaucoup exploitent des ressources déjà. Donc, est-ce qu'il y a eu des heurts, des chocs? On a beaucoup parlé de l'affaire du Yellow Cake, au Niger, ce uranium. Est-ce qu'il y a eu des conflits ou des affrontements entre les groupes occidentaux et puis les groupes chinois qui se positionnent sur les matières premières?
C'est jamais frontal comme ça, mais c'est concurrentiel, par définition. Alors, ça dépend effectivement de quels acteurs occidentaux on parle. Les entreprises privées, les grosses entreprises qui sont dans l'exploitation pétrolière ou minière, effectivement, considèrent que la Chine, c'est un concurrent. Mais les bailleurs de fonds ont une attitude beaucoup plus mitigée. Certains en ont peur, mais ils se rendent compte aussi que la Chine est incontournable. Et puis, les petits entrepreneurs privés sur le terrain, c'est la même chose. Ils sont aussi partagés entre les avantages qu'ils peuvent tirer, mais aussi le risque qu'il y a. Donc, les situations ou les perceptions sont très nuancées selon les acteurs.
Y compris dans le pétrole, par exemple. Donc, la Chine a trois grands acteurs qui ont des coopérations avec des grands acteurs pétroliers occidentaux. Dans ce que vous évoquez, le cas du Niger, la situation est beaucoup plus délicate, puisque par ailleurs, les Français ont des visées en Chine sur le Niger.
Ils ne sont pas contents du tout.
Mais par ailleurs, ils arbitrent ça entre ce qui se passe au Niger et ce qu'ils veulent faire en Chine.
Et les Africains? Y a-t-il une résistance africaine? A-t-il une renégociation? A-t-il une reprise de pouvoir des Africains qui imposent d'autres termes à ces contrats? Commençons par quelque chose qui peut paraître avoir un moindre enjeu économique, mais qui symboliquement et éthiquement en a un considérable. La Chine est soupçonnée de jouer un rôle extrêmement actif en matière de trafic d'ivoire et n'aide absolument pas les États africains à régler et même à supprimer le trafic on impute à la Chine ou à la présence chinoise... La disparition accrue des éléphants d'Afrique, qu'en est-il?
Moi, je pense qu'il faut faire attention à dire « la Chine fait ci, la Chine fait ça ». Ce sont certains acteurs chinois, comme il y a eu certains acteurs français pas terriblement roses, je dirais, qui ont exploité.
Oui. Alors, et vous avez raison, mais comme les Chinois sont des grands consommateurs d'ivoire...
Ça ne veut pas dire que...
Les rendent collectivement responsables.
Je ne pense pas que ça soit une orchestration qui vienne du gouvernement chinois de dire il y a l'exploitation d'ivoire.
Il n'y a aucune injonction du gouvernement chinois à aider les Africains à mener le combat contre le trafic d'ivoire. J'ai lu aussi, dans Jeune Afrique en particulier, plusieurs articles récents qui insistaient sur le fait que maintenant les Africains se considèrent comme des partenaires commerciaux, renégocient les contrats avec les Chinois, exigent d'autres conditions plus favorables que des ouvriers chinois, des ouvriers africains qui travaillent dans des sites exploités par des Chinois se révoltent, demandent là encore de meilleures conditions. Donc qu'en est-il? Est-ce qu'on va assister par la force des choses et par l'empowerment, pour reprendre ce terme bien utilisé aujourd'hui, des Africains eux-mêmes, à un rééquilibrage des relations qui seraient plus directement, mutuellement bénéfiques?
Encore une fois, c'est en dynamique qu'il faut analyser la situation. Les choses ne sont absolument pas figées. Lorsqu'il y a des contrats qui sont plutôt défavorables, qui ne sont pas des contrats gagnant-gagnant, il est clair que la Chine va se renégocier ce contrat. Elle n'insiste pas. Lorsque la Chine
et les Africains aussi.
Mais les Africains aussi, tout ceci est en renégociation.
Qu'appelle-t-on ce fameux consensus de Benji qui est censé s'opposer au consensus de Washington et qui précisément présente l'aide de la Chine comme une aide non conditionnelle et qui est gagnant-gagnant, qui est beaucoup plus équilibré? Qu'en est-il?
Oui, mais ce consensus de Beijing, c'est une expression qui ne provient pas du tout de Pékin.
C'est un cabinet
aux États-Unis qui a parlé comme ça d'un consensus de Beijing en opposition au consensus de Washington. Mais ça n'a pas du tout de reconnaissance intrinsèque ni par les chercheurs chinois. Ils ne parlent jamais de consensus de Pékin, ni par les autorités chinoises.
Il est vrai que l'Afrique est devenue un sujet d'étude extrêmement important en Chine, dans les universités chinoises, dans les groupes de recherche. Mais alors justement, parlons maintenant pour conclure, et ce sera ma dernière question, de la signification politique de tout cela. Il y a en Afrique un certain nombre de pays qui sont considérés comme à des degrés divers, des États parias. Et la Chine entretient les meilleures relations avec tous ces États. Donc comment, par exemple, il est difficile de ne pas parler du Zimbabwe et des rapports les gouvernements chinois, les investisseurs chinois, les acteurs économiques chinois ont avec d'autres pays dans ce cas. Comment analyser ce type d'initiative ou ce type de relation particulière de la Chine par rapport à des actions qui sont menées de manière internationale et qui multiplient les incitations ou les sanctions pour ramener ces pays à des modes de gouvernance un peu plus en phase avec la normalité?
Oui, non, mais votre question est tout à fait légitime, puisque c'est évidemment la coopération avec des États parias. Et puis même, il suffit, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle a été l'attitude de la Chine pendant la crise ivoirienne.
Pouvez-vous la rappeler?
Soutenant Gbagbo,
en dépit du résultat des élections.
Absolument. Puis, dès qu'il y a eu Ouattara qui a été élu, eh bien, maintenant, c'est des relations tout à fait sereines avec Ouattara. Donc, au nom de la non-ingérence.
C'est ce qui s'est passé aussi en Zambie. Donc, lorsque l'opposant au Chinois a été élu, les relations se sont refaites très bien avec... quand Sata, je veux dire, a été élu, les relations ont repris avec les Zambies sans... C'est le consensus de Beijing dans le cas où il y a non-ingérence. C'est ce que fait la Chine partout. Elle reconnaît les États.
Il est vrai que les Occidentaux qui prétendent agir au nom de valeurs, interviennent beaucoup plus.
Ils interviennent beaucoup plus.
Et sans avoir toujours l'accord des personnes concernées. Ça va de soi. On l'observe en même circonstance.
Et que l'on retrouve d'ailleurs, par exemple, la Chine n'a jamais d'assistant technique dans les administrations centrales. Jamais la Chine ne va intervenir dans la formulation d'une politique publique, d'une politique économique. Jamais. Elle reste au niveau des projets et alors après, au niveau politique, entre Parti communiste chinois et puis autorité nationale.
Merci Jean-Raphaël Chaponnière et Jean-Jacques Gabas pour cet entretien.
Merci
à François Connard qui a réalisé cette émission. Merci à Philippe Palares qui était à la technique. N'oubliez pas, juste un instant, Marie Richeux pour pas la peine de crier. Et quant à moi, j'espère vous retrouver donc jeudi prochain à la même heure pour Question d'éthique. Très bonne semaine à tous.